Il est 8h.
Moi, je me vaccinerai que si le lycée c'est obligatoire, la vaccination elle est obligatoire.
Alors, jour de rentrée pour 12 millions d'élèves aujourd'hui. Retour en classe masqué sous le signe de la vaccination. Nous serons à Nice dans un instant. Deuxième journée de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Pas de fausses promesses, assure le président. Déplacement qui, pour ses opposants, a des petits airs de campagne pour sa réélection. À l'étranger, des torrents de pluie dans le métro, des avenues inondées, des vents violents, état d'urgence décrété à New York après le passage de l'ouragan Ida. Et puis le football, un partout hier soir face à la Bosnie pour des Bleus, un poil décevant. Votre invité Sonia Mabrouk dans un quart d'heure.
Bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mon invité ce matin est philosophe et député européen LR. François-Xavier Bellamy va réagir au déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille et il nous dévoilera aussi ses propositions exclusives sur l'école pour, dit-il, stopper la spirale du déclassement. Sacré défi, à tout à l'heure.
Dimitri Pavlenko.
Votre matinale info sur Europe 1.
Le journal Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Cette fois, ça y est, plus moyen de reculer. La cloche va sonner ce matin et c'est bien la rentrée des classes.
Oui, alors il y a bien encore des élèves dont la rentrée va s'étaler sur la journée, voire jusqu'à demain, mais c'est vrai. Un peu plus de 12 millions d'élèves, collégiens et lycéens, retrouvent le chemin de leurs établissements pour une rentrée placée sous la menace du variant Delta. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Correspondant d'Europe 1 à Nice, vous êtes devant le lycée Guillaume Apollinaire, un lycée dont les élèves vont pouvoir se faire vacciner dès ce premier jour de rentrée, Frédéric.
Effectivement, et la rentrée lyonnaise vient tout juste de sonner au lycée général et technique Guillaume Apollinaire. Ce sont les secondes qui viennent de franchir en premier les grilles de l'établissement. Début des cours à 8h avec des sourires sur les visages. On est heureux de revoir les copains et un peu d'anxiété aussi hein, pour ces élèves qui passent du collège au lycée. Une rentrée placée, vous l'avez dit ce matin, sous le signe de la vaccination. Ce lycée de Nice propose dès cet après-midi aux élèves de se faire vacciner. Souhel et Younes sont partagés.
Moi, je me vaccinerai que si le lycée c'est obligatoire, la vaccination elle est obligatoire.
Après, ça va être obligatoire dans les magasins, les restaurants. Donc c'est mieux de faire le vaccin parce que sinon on ne peut pas entrer.
Toi tu préfères le faire?
Ouais.
Tu le feras ici au lycée?
Non, je sais pas.
Chloé et Léa, elles ne se feront pas vacciner, mais ces deux adolescentes qui entrent en classe de seconde espèrent vivre une année enfin normale.
On voudrait que ça redevienne comme avant, que ça finisse.
Les cours en visio et les pas sanitaires, de se dire qu'avant on était libre et tout ça et qu'au final c'est fini tout ça. Et qu'on dépend d'un vaccin et pour pouvoir faire notre vie quoi.
Toi tu t'es fait vacciner?
Non, clairement pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je trouve qu'on n'a pas assez de recul sur le vaccin donc ça me tente pas.
Et que le lycée propose la vaccination?
Franchement je serais pas chaude pour le faire.
Et pour tout vous dire, la majorité des élèves que j'ai rencontrés ce matin devant les grilles ne sont pas chauds pour cette vaccination. Cet après-midi, ce sera au tour des élèves de première et de terminale de faire leur entrée.
Merci Frédéric Michel, à Nice pour Europe 1.
Cette rentrée des classes, Emmanuel Macron la vivra de son côté dans un groupe scolaire de Marseille pour la deuxième journée de sa visite dans la cité phocéenne.
Hier, après une immersion dans les quartiers nord au contact des mères de famille et des éducateurs, il a assuré aux policiers marseillais que le gouvernement ne lâcherait rien face aux dealers qui gangrènent les quartiers populaires.
Le cancer qui ronge la ville, c'est la drogue. Vous savez qu'on a lancé une stratégie nationale, on a des résultats, ils sont croissants. Et je veux vous féliciter de ces résultats, c'est le fruit de votre travail. Mais on va continuer et aller au bout. En vous donnant les moyens, en créant l'irréversibilité de certaines fermetures de points de deal, et en démantelant les réseaux les plus installés, au national et à l'international. Cette action, nous continuerons de la mener dans les prochains mois de manière déterminée. On la mènera aussi en responsabilisant tout le monde localement. Il faut que tout le monde comprenne dans notre pays que les consommateurs aujourd'hui de drogue sont des complices, de fait. Et cette action déterminée, on la mènera, on ne lâchera rien.
Emmanuel Macron devant les policiers de la division nord de Marseille. Jean-Luc Mélenchon dénonce le début d'une campagne électorale pour Emmanuel Macron. Coïncidence d'ailleurs, les jeunes avec Macron s'apprêtent à lancer une grande campagne d'affichage pour 50+. Alors la question, Louis Dragnel, c'est de savoir si Marseille n'est pas finalement la première étape d'une course à la réélection pour le président de la République.
Eh bien, officieusement, oui. 3 jours de déplacement dans une ville de métropole, il ne l'a jamais fait. Avec de vrais sujets de présidentiel, sécurité, éducation, économie, logement, une manière de répondre aux attaques de la droite, mais aussi de faire face à son bilan et de se projeter. Et puis, officiellement, il n'est pas vraiment en campagne. D'ailleurs, Emmanuel Macron se lancera le plus tard possible. À ce stade, il se fiche totalement de savoir qui sera son directeur de campagne, qui fait partie de l'organigramme. Il a horreur de ça. tout sera piloté en réalité depuis l'Élysée, par son carré d'une dizaine de fidèles. Et puis, il le sait, le jour où il descend dans l'arène de la campagne, il n'est plus tout à fait président. Il se transforme en président et candidat, ce qui le place immédiatement à portée de baffe de ses concurrents. En tout cas, ce que je peux vous dire, Emmanuel Macron boit du petit lait quand il observe ce qui se passe à droite et à gauche, avec des primaires compliquées. Il a d'ailleurs tout fait pour ne jamais être confronté à ce problème, en ne donnant aucun poids ni aucune structure véritable à son parti, La République En Marche. Résultat, il est aujourd'hui le seul, l'unique, le candidat naturel de son camp.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Il est 8h06, l'image de la nuit, ce sont ces inondations très spectaculaires à New York.
Les restes de l'ouragan Ida, des vents violents, des pluies diluviennes. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. New York où l'état d'urgence a été décrété.
Oui, rester à l'intérieur ne conduisait pas à alerter le maire. C'est la toute première fois qu'une urgence inondation a été déclenchée pour la ville de New York. Il pleut sans discontinuer depuis la fin d'après-midi. 8 cm d'eau tombée dans la soirée à Central Park en seulement une heure. Les stations de métro ont été envahies par des torrents. À l'heure actuelle, la quasi-totalité des lignes sont à l'arrêt. Et la gouverneure a admis ne pas pouvoir garantir le fonctionnement du réseau ce jeudi matin. Parmi les autres images, des rues et des caves inondées à Brooklyn et dans le Queens, un match de l'US Open de tennis interrompu car la pluie rentrait sur le court malgré le toit. L'un des trois aéroports de la métropole, celui de Newark dans le New Jersey, a stoppé son activité dans la soirée. Le hall passager et un hangar se sont retrouvés inondés. Des tornades ont également touché des villes dans le Maryland et dans le New Jersey. En fait, ce qu'il reste de l'ouragan Ida a traversé le pays toute cette semaine. En Louisiane, des centaines de milliers de personnes sont toujours privées d'électricité, alors que Joe Biden se rend sur place demain vendredi.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à New York.
6 ans après le traumatisme des attentats du 13 novembre, c'est un procès pour l'histoire qui va s'ouvrir mercredi prochain à Paris.
20 accusés dans le box, parmi eux Salah Abdeslam, des accusés qui répondront des attaques du Stade de France, du Bataclan et des terrasses parisiennes, 131 victimes et un souvenir toujours prégnant dans les 10e et 11e arrondissements de Paris où s'est rendu Jean-Sébastien Soldaini.
Pour trouver des traces de ce qu'il s'est passé dans le quartier, il faut lever les yeux attentivement ou bien fouiller derrière un parterre de fleurs. Là, gravé sur des stèles, apparaissent les noms des victimes. Mais Johan, client du petit camp, j'avoue ne plus y prêter attention.
Au début, c'était très présent. Les premières fois, on y passe, mais avec le temps, on s'habitue même à voir la stèle. Et puis, la preuve qu'on a réussi à avancer, c'est que, comme vous voyez aujourd'hui, c'est un bel endroit.
Attablée au carillon, Camille était présente quelques minutes avant les attentats. Elle a refusé de quitter le quartier et commence à tourner la page 6 ans après.
Ça reste un souvenir qui est à la fois là, mais qui n'est pas présent à notre esprit. C'est le principe de la mémoire qui fait son travail de sélection aussi, et c'est naturel et on reprend notre vie comme ça.
Ce ne sont finalement que les visiteurs occasionnels qui admettent de ressentir un frisson. Clémence est venue spécialement accompagnée de sa fille de 11 ans, un déjeuner pour entretenir la mémoire.
Là, ma fille ne savait pas que c'était un des restaurants où il y avait lieu les attentats, donc je lui ai expliqué pour continuer, pour parce qu'on n'a pas peur, parce que on a la chance de pouvoir aller en terrasse, d'être à Paris, puis parce que pour que le lieu continue de vivre.
La vie, tous les jours de l'année et rien d'autre, tous les jours sauf à chaque anniversaire du 13 novembre ou de l'aveu d'un cafetier, l'ambiance reste pesante.
Reportage de Jean-Sébastien Soldaini.
J'ajoute qu'Europe 1 vous fera vivre évidemment ce procès qui s'ouvre également 3 jours avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Pour terminer le journal, le football, rentrée peu convaincante des Bleus hier soir face à la Bosnie lyonnaise.
Un partout dans une rencontre un peu poussive, c'est vrai, malgré une belle ambiance au stade de la Méno à Strasbourg. Des Bleus qui ont été réduits à 10 en seconde période. Mais enfin, vous connaissez la formule. Quand on ne peut pas gagner, on s'emploie à ne pas perdre. Voilà. Mais c'est vrai, comme le disent nos confrères de l'équipe ce matin pour nos champions du monde, c'est toujours pas ça. Des Bleus qui restent quand même premiers de leur groupe face à l'Ukraine. L'Ukraine qu'ils rencontreront samedi prochain sur le coup de 20h45. Et puis notez que Cristiano Ronaldo est entré dans l'histoire hier. Il a inscrit avec le Portugal ses 110e et 111e but en sélection, battant ainsi le record de l'Iranien Ali Dei pour une victoire du Portugal 2-1 face à l'Irlande.
Merci Lionel Gougelot.